Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne manquera pas à la tradition en vous apprenant, en vous rappelant que 24 notes secondes est consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis déjà un sacré bout de temps et maintenant elles bougent sur des supports de plus en plus petits, mais c'est comme vous voulez. Ce jour, dans 24 notes secondes, nous allons évoquer la carrière toujours en cours, heureusement pour nous, d'un réalisateur américain dont le nom, j'espère, vous dira quelque chose, Wes Anderson. Et s'il ne vous dit rien, eh bien, bienvenue. Vous allez découvrir Wes Anderson, né le 1er mai 1969. Il est tout jeune. À Houston, Texas, ce qui prouve qu'on peut devenir un grand réalisateur tout en étant né à Houston, Texas. Ça valait quand même la peine d'être noté. Il faut dire que l'homme est d'origine suédoise et norvégienne, et donc avec cette culture européenne dont, comment dire, les Texans ont l'air parfois de manquer un petit peu. Son papa est d'ailleurs archéologue, c'est vous dire. Wes, eh bien, commence sa carrière à l'université du Texas, si l'on veut. Et si je le mentionne, ce n'est pas pour la biographie, mais c'est parce qu'il y fait la rencontre de quelqu'un, un pote, avec lequel il partage sa chambre d'internat, en l'espèce Owen Wilson, qui devient quelques années plus tard une superstar au comics, ce qui va bien d'ailleurs aider notre Wes, puisque, toujours évidemment intéressé par le cinéma, il décide non pas de faire des études, mais de se lancer directement dans le cinéma en tournant un premier long métrage que, je l'avoue, je n'ai pas vu, qui s'appelle Bottle Rocket, qui apparemment n'a pas rencontré un grand succès commercial. Il réalise ensuite, toujours aidé par Owen Wilson et son frère Luke Wilson, lui aussi très connu, un second long métrage qui s'appelle Rushmore et qui rencontre lui son petit succès, ce qui lui permet d'enchaîner. Je sais, c'est un peu fastidieux, mais ça va s'arrêter. Alors, s'il vous plaît, continuez à écouter. On va écouter un peu de musique. Non, mais je l'explique quand même, parce que c'est moi qui fais l'émission. Donc, que vous interveniez, tant mieux. Que vous m'interrompiez, monsieur, c'est autre chose. Bref, en 2001, le dit Wes Anderson tourne La famille Tenenbaum, où il retrouve Luke et Owen Wilson, entourés, excusez du peu, de Gene Hackman, Angelica Houston, Ben Stiller et Bill Murray. Bref, un casting de rêve pour un film qui n'est pas moins. Premier succès, premier extrait dans 24 notes secondes.
Charm around your neck, strung out and thin, calling some friend, trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay. Sometimes they just get caught in the eye, you're pulling him through. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay.
watching this dirty retreat, falling out, six in pallet, dead sweat in my teeth. Gonna walk, 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 four more blocks, plus the one in my brain. Down, downstairs, to the man, he's gonna make it all okay. I can't be myself, I can't be myself, and I don't wanna talk. I'm taking the cure, so I can be quiet wherever I want. So leave me alone, you oughta be proud that I'm getting good marks.
Regretté Elliott Smith dans un extrait de la bande originale de la famille Tannenbaum avec son titre Needle in the Hay, sans doute prémonitoire puisque l'histoire raconte que Wes Anderson supposait lui confier la musique de son film, mais que le dénommé Elliott Smith était déjà empêtré à l'époque dans les problèmes de drogue et de dépression qui, 2 ans plus tard, le conduiront à se suicider dans des circonstances affreuses. Le film La famille Tannenbaum est quant à lui inspiré de La splendeur des Amberson, le second film d'Orson Welles, tourné quelque part en 1944-45, si je me souviens bien. Comme on le devine avec le titre, eh bien, l'histoire d'une famille des plus tourmentées, avec des secrets qui finiront par s'éventer, et avec déjà ce style inimitable de Wes Anderson, un mélange de sérieux, de tragique, de burlesque, de grotesque, de scandaleux, d'ironique. Après, je n'en pourrais en rajouter beaucoup. Et puis aussi l'art du casting, puisque avec tous les interprètes que je vous... Oh, à tous les interprètes que j'ai évoqués avant d'écouter ce morceau, il faut ajouter Gwyneth Paltrow, Danny Glover, Alec Baldwin, Seymour Cassell et quelques autres. Excusez du peu. Ensuite, eh bien, maintenant solidement établi, Wes Anderson va pouvoir tourner un film qui n'aura rien à voir. C'est d'ailleurs la caractéristique et le charme de l'auteur. Chacun de ses films est totalement différent du précédent, sauf l'auteur. Et ce sera La vie aquatique, The Life Aquatic with Steve Zissou, un film sorti en 2004 dans lequel on retrouvait Bill Murray, déjà évoqué, jouant le rôle d'un océanographe excentrique à l'ego surdimensionné qui dirige son équipage en despote. Il est très très difficile, surtout en voyant l'homme avec un petit bonnet rouge sur la tête, de ne pas penser à Jacques-Yves Cousteau. Et de fait, La vie aquatique est une sorte d'hommage un peu bizarre ou d'assassinat un peu drôle de ce que fut Jacques-Yves Cousteau, dont il reprend certains d'éthique, mais dans un style poétique et complètement déjanté, dirais-je, si le mot n'était pas complètement dévalué. Aux côtés de Bill Murray, il y a à nouveau Owen Wilson, ce que c'est qu'une amitié forgée sur les bancs de l'université. Il y a Cate Blanchett, il y a à nouveau Angelica Houston, Willem Dafoe, Jeff Goldblum. Quand je vous disais que cet homme sait s'entourer, et on va écouter évidemment un extrait de la bande originale de La vie aquatique dans 24 notes secondes. Thank you. Oui, je sais, allez, vous vous récriez, ce n'est pas un extrait de la bande originale de La Vie aquatique de Wes Anderson, mais si, c'est aussi un extrait de La Vie aquatique, et c'est évidemment John Bez, une musique d'Ennio Morricone, non, je ne vais pas le faire aussi avec Ennio Morricone, mais ça marche aussi, qui était de fait la musique d'un film intitulé Sacco e Vanzetti, un film politique bien oublié des années 70. Politique, vous vous souvenez ce que ça veut dire? Non, c'est pas grave. Un film qui racontait justement la mort de deux anarchistes italien Sacco e Vanzetti, injustement accusé et injustement exécuté par la justice américaine. Non, ça marche pas non plus. Voilà, donc c'est à la fois ça et c'est à la fois Wes Anderson, l'homme qui s'est récupéré un peu partout pour faire son style imitable comme l'était la vie aquatique, un mélange, dit ma petite fiche, entre Antonioni et Mastroianni. Mastroianni, je ne vois pas trop. Antonioni, effectivement, parfois il y avait une esthétique années 60 très très prégnante et un très beau film avec un Bill Murray qui interprétait le commandant Cousteau et que c'était assez jouissif, il faut le reconnaître. Il paraît que les héritiers, eux, n'avaient pas du tout, mais pas du tout apprécié. Allez, un autre film de Wes Anderson, et là encore, rien à voir, un film avec des personnages animés, ça s'appelle Fantastic Mr. Fox. Alors, il n'y a pas de rôle principal, mais il y a des voix dans les rôles principaux, et là encore, quelle voix, puisque les deux principaux interprètes, ce sont George Clooney et Meryl Streep dans la version originale, Mathieu Amalric et Isabelle Huppert dans la version française. Là, c'est comme vous voulez, mais nous, on va en rester à la version originale. Je ne voudrais pas être désagréable. Un film qui est une adaptation d'une histoire de Roald Dahl, interprétée, intitulé, je vais y arriver, Amalric Huppert, ça me trouble, intitulé Fantastique Maître Renard, et qui était réalisé donc à la main, avec des petites marionnettes qu'on fait bouger image par image. Je vous laisse imaginer le temps, je vous laisse imaginer le travail, 5229 plans, dit ma petite fiche, toujours très précise, 621 450 photos, 4000 accessoires, 500 marionnettes, 150 décors, bref, tout ce que vous voulez pour un film, mais plus léger, tu meurs, tout ça, ce travail ne se voit pas, ça c'est l'art, et puis surtout, c'est la première rencontre, et depuis il y en eut d'autres, entre Wes Anderson et Alexandre Desplat. Alors là, je le refais encore, Alexandre, allez, on écoute un extrait fantastique, Mr. Fox.
Thank you.
La nature humaine est ainsi faite que quand on écoute ce genre de musique, eh bien tout le monde se dandine maladroitement dans le studio façon Télétubbies, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu lamentable, mais c'est un extrait de la bande originale de Fantastic Mr. Fox, une musique signée pour ce que nous venons d'écouter, Alexandre Desplat, mais une bande originale dans laquelle il y avait aussi tout plein de The Beach Boys, des Rolling Stones et même George Delerue dedans. Bref, Wes Anderson, l'homme éclectique, l'homme qui sait tout faire, tout écrire, et il le prouva. Alors j'ai oublié d'indiquer qu'entre les deux films dont nous venons d'écouter des extraits musicaux, il y avait eu à bord du Darjeeling Limited, peut-être un film un peu en mineur par rapport à ceux qu'on a déjà évoqués, mais ce ne sera pas le cas du suivant, Moonrise Kingdom, sorti en 2012 et coécrit avec Roman Coppola, la fille de vous savez qui, bien sûr, la pauvre, on ne doit pas lui dire tous les jours sans doute, avec à nouveau Bill Murray dans les rôles principaux, quelque chose qui se passe quelque part sur une île de la Nouvelle-Angleterre durant l'été 1965. Deux jeunes gens de 12 ans tombent amoureux et ce qu'il en s'en suivit. Dans les rôles principaux, eh bien, il y a deux jeunes gens, Jared Gilman et Cara Hayward, dont on n'a pas entendu reparler depuis Yet. Et puis il y a aussi Bruce Willis, Edward Norton, Frances McDormand et plein d'autres, Tilda Swinton, Harvey Keitel, bref, là encore une petite merveille d'enfance. On peut deviner l'attrait que l'enfance doit exercer auprès de Wes Anderson, et comme tous les gens attirés, eh bien il traite la chose sérieusement mais avec drôlerie, et c'est à nouveau Alexandre Desplat. Elle est pas belle la vie dans 24 notes secondes.
Thank you.
Et c'est reparti pour les Teletubbies. Pathétique, pathétique, un extrait de la bande originale de Moonrise Kingdom, un film de Wes Anderson. Et on va se quitter un peu rapidement en écoutant à nouveau un extrait d'Alexandre Desplat. Ouais, d'une bande originale de Wes Anderson. Le film, il s'appelle The Grand Budapest Hotel. Il y a tellement d'acteurs dedans que je ne peux guère vous en dire plus, si ce n'est que c'est l'histoire d'un hôtel sur 3 générations et à chaque génération correspond son format de projection. Ce gars, vraiment, il a toutes les idées, mais je m'en voudrais quand même, avant de laisser la musique à Alexandre Desplat, de ne pas signaler que le film valut son premier Oscar à Alexandre, 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 Alexandre. Alexandre, Alexandre, non mais là c'est bon. Ah oui, pardon, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.